C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Erreur d'aiguillage ici parce que le commissaire Ferrandaise est encore en relâche. Il sera de retour lundi. Nathalie, on commence ce matin avec l'étude qui a été rendue publique par l'Office québécois de la langue française sur la langue de travail au Québec. Et ce qu'on constate, c'est pas une vraie surprise, là, l'anglais prend plus de place. Je vais faire une parenthèse. On a demandé à quelqu'un de l'Office de venir nous expliquer ce matin les résultats. Et ils nous ont répondu qu'il n'y a personne pour expliquer l'étude.
Ben voyons.
Ben, tu dis, mais pourquoi vous la publiez s'il n'y a personne? On n'explique pas l'étude. Voici l'étude. C'est un peu spécial.
Grand n'importe quoi.
Ben, je sais pas, là, si tu rends public un document, es-tu capable de venir nous l'expliquer?
Ben, d'une part, puis d'autre part, c'est parce que ça peut laisser place à l'interprétation.
Exact.
À moins de te taper la lecture de ce rapport, de cette enquête qui fait 54 pages.
Mm-hmm.
Mais avant de répondre à ta question, j'ai trouvé l'exercice très intéressant. J'ai comparé les titres de 3 journaux sur les résultats de l'enquête. Le Journal de Montréal titrait hier « L'utilisation du français au travail en baisse au Québec ». Après ça, le Journal de Devoir, « Le français au travail reste stable au Québec, mais l'anglais l'accompagne souvent ». Et la presse, ce matin, l'utilisation exclusive du français au travail a connu une baisse au Québec. Alors, qui dit vrai dans ces 3 titres, selon ce que j'ai lu du rapport, c'est le Devoir. Le titre du Devoir, le français au travail reste stable au Québec, mais l'anglais l'accompagne souvent, selon moi, est plus fidèle. Et le titre le plus fidèle qui traduit la conclusion de cette enquête. En passant, ce type d'enquête, parce que l'utilisation de l'anglais au travail, c'est un des nombreux indicateurs qui est utilisé par l'Office québécois de la langue française pour mesurer la vitalité de notre langue au Québec. Alors, ce qu'ils ont constaté, c'est que les travailleurs et travailleuses qui utilisent le français au moins 90 % du temps dans le cadre de leur emploi, ben, et ce qu'ils ont constaté là dernièrement, ben, c'est la même chose, c'est similaire aux résultats des études qui ont été menées en 2010 et en 2016. Donc ça bouge pas. Par contre, ce qu'ils ont constaté, c'est que l'utilisation du français se fait de plus en plus. Les travailleurs l'accompagnent de plus en plus de l'anglais, de plus en plus de l'anglais, de plus en plus de l'anglais. Voilà. Ça, c'est une chose. L'autre chose...
Et le phénomène est très montréalais aussi, là. Ailleurs au Québec, c'est un peu différent et un peu beaucoup.
J'y arrivais, Paul. J'y arrivais parce que tu vois, quand le premier ministre nous dit, et son ministre responsable de la langue française, c'est terrible, le français est menacé au Québec, le français est en recul, wow, minute papillon, là. Il y a des nuances, puis il faut les faire, les nuances. Et tu as raison d'insister sur le fait que l'île de Montréal et la région métropolitaine de recensement de Gatineau, c'est les deux endroits au Québec où c'est plus difficile. On pourrait dire qu'il y a une certaine tension sur le plan linguistique. Soit je te donne deux exemples. L'utilisation du français pendant les réunions, ben les répondants, parce que cette enquête a été menée grâce à un sondage, les répondants ont affirmé que dans 57 % des cas, ils utilisaient au moins le français dans 90 % du temps. Okay? Ça, c'est pour les réunions de travail. Je vais te donner un comparable. Par exemple, à Québec, c'est 89 % du temps. Du côté de la région métropolitaine de recensement de Gatineau, c'est 62 % À Laval, c'est 73. Donc, c'est vraiment... Puis c'est même chose pour ce qui est des communications avec les subalternes. L'île de Montréal, de même que la région métropolitaine de Gatineau, c'est la même réalité. Mais elle s'explique, la réalité. À Montréal, t'as 120 communautés culturelles qui se côtoient. T'as l'arrivée, quoi, 80, 85 % et même plus, parfois, les demandeurs d'asile, les immigrants qui arrivent. Puis la présence des nombreux sièges sociaux à Montréal, ça s'explique. Ça, c'est une chose. Gatineau, tu le sais, l'influence d'Ottawa dans la vie économique de Gatineau.
Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé pareil dans les dernières années?
Oui.
Moi, qui est un Montréalais, là, j'observe, puis c'est assez frappant. C'est-à-dire que, tu sais, l'image qu'on avait de l'incapacité de se faire servir en français, c'est pas mal effiloché dans le temps. Tu te retrouvais avec des gens qui t'accueillaient en anglais, mais qui pouvaient te parler en français, les enfants de la loi 101. Et ça, c'était très réel, même dans les commerces au centre-ville. C'est vrai que le bonjour aille, puis l'accueil était souvent en anglais, mais la personne pouvait passer au français facilement. Depuis la vague de réfugiés, il n'est pas rare de tomber sur des unilingues anglophones dans des jobs de chauffeur de taxi, et même dans certains commerces au détail, où le français a complètement disparu. Et moi, je trouve que quand la CAQ dit qu'il y a un niveau d'inquiétude, ils ont raison. Parce que ces réfugiés-là, par exemple, ils n'ont pas le temps d'aller apprendre le français. Puis là, je fais abstraction des cours qui existent, puis de la formation. ils se battent pour vivre. Ils ont des deux, trois jobs souvent, pas très payantes. Il y a un logement. Leurs enfants vont apprendre le français parce qu'ils vont aller à l'école. C'est comme si on a une génération importante en termes de nombre qui arrive, mais ça donne un coup dur aux Français quand même en milieu de travail.
Je suis d'accord avec toi. Puis dans le cas de Montréal, j'ajouterais la présence des étudiants internationaux
aussi,
qui souvent aussi. ne parlent pas français. Mais quand tu... C'est parce que lorsque le gouvernement dit le français menacé, tu peux pas dire que le français menacé de la même façon dans toutes les régions du Québec. C'est précisément pour cette raison que je dis qu'il y a des nuances qui s'imposent. Souvent, ces nuances ne sont pas faites par le gouvernement.
Tu sais, non, mais tu peux pas faire une loi pour Montréal puis une loi pour le reste du Québec.
Je sais, Paul, mais... Quand tu t'es vu au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu vis dans le centre du Québec, dans d'autres régions, tu sens pas cette menace
non.
Aux Français. Alors, c'est pour ça que souvent, on regarde le premier ministre et on se dit, ben, de quoi il parle? Mais c'est sûr que quand tu vis à Montréal, toi, tu es Montréalais, quand tu vis à Gatineau, c'est sûr que là, t'as une perspective qui est complètement différente. Je donne un autre exemple, Air Canada. Tu sais, Air Canada, pour ne pas la citer, ça, c'est l'exemple qui est devenu, selon moi, le symbole du recul du français à Montréal. On lisait il y a quelques, je pense une semaine ou deux, on apprend que M. Rousseau, Michael, de son prénom, ne parle pas français deux ans après avoir pris l'engagement d'apprendre notre langue. Mais ce qu'on apprend aussi, c'est que cette entreprise, cette grande entreprise qui est soumise à la loi sur les langues officielles à Ottawa, ben son conseil d'administration sur quoi 12-13 membres, il y en a à peu près deux qui parlent qui sont capables d'avoir une conversation français, qui sont parfaitement bilingues. Conclusion, les réunions du conseil d'administration se font probablement encore en anglais du côté d'Air Canada. Moi, ce que je remarque chaque fois qu'on fait ce sujet-là, c'est que les auditeurs témoignent dans leur milieu de travail, ils sont souvent parfois obligés de parler anglais, même s'ils sont une majorité de francophones.
Oui, parce que tu vas avoir, par exemple, un conseil d'administration où tu as trois administrateurs anglophones qui parlent pas français. Je te jure que la réunion va se passer en anglais.
C'est ça.
Parce qu'ils comprennent pas. Puis la plupart des franco comprennent ou parlent les deux langues. Et c'est vrai, là, je dis DCA, mais c'est vrai en milieu de travail. Il y a un auditeur qui m'a écrit ce matin, je ne dirai pas la compagnie, là, mais disons que c'est un géant dans le domaine de l'aéronautique. Il y en a quelques-uns à Montréal.
Oui, oui.
OK. Ben, les directives se donnent en anglais souvent. Les échanges se font en anglais parce que tu as des spécialistes qui viennent se greffer, qui sont américains, qui sont ontariens, qui viennent d'ailleurs. La langue anglaise, dans des domaines plus pointus, s'impose de plus en plus comme langue du travail. Là.
Oui.
Dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises.
Ouais. Mais je dis pas que c'est un drame en soi parce que si on n'est pas vigilant, notre langue commune va s'effriter en milieu de travail, mais en même temps, c'est pas évident. Il y a de la résistance pour toutes les raisons que j'ai énumérées un peu plus tôt. Quand tu es une entreprise qui travaille, qui est en exportation, tu comprends, c'est pas simple. L'autre réalité qui est un peu plus inquiétante dans cette enquête, c'est les jeunes. Les jeunes parlent, en fait, ont de moins en moins de scrupules à parler anglais au travail. C'est-à-dire, pour eux, anglais, français, bof, tu sais, c'est comme, il y en a pas d'enjeu. Mmh. Et l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que pour à peu près un peu plus de 20% des répondants qui ont affirmé que pour avoir un travail, ils devaient absolument maîtriser l'anglais, alors que le ministre responsable de la langue française a toujours dit que le fait de ne pas parler anglais ne devrait pas être un motif de discrimination. Tu comprends?
Mais ça dépend du travail, quand même.
On s'entend. Mais tu sais, il y a plein de nuances dans ce dossier-là, mais clairement, là, c'est pas la panique, mais il faut continuer de
vivre. Mais moi, j'ai un seul irritant.
Oui.
Quand Mme Plante parle de créer un quartier francophone à Montréal, moi, ça me tue.
Ça n'a pas passé, hein, ça?
Ben, c'est parce que, écoute, là, OK, il y a une communauté anglophone forte, importante, ouais. C'est vrai, mais Montréal, c'est une ville francophone à la base. À la base, as-tu besoin de renforcer ça en créant un quartier, en disant ici, tu sais, c'est l'îlot francophone, c'est quoi cette affaire-là?
Moi, j'ai
un peu. Bon, au retour de la pause, Nathalie va faire son rapport.
La commission Normando-Ferrandaise.
Madame la commissaire, votre rapport?
Oui, la Palme d'Or cette semaine va à Nikki Haley. Ben évidemment, celle qui a osé, qui a le courage de faire la lutte à Donald Trump. Elle a jeté la serviette contre l'ex-président, qui va peut-être devenir un nouveau président, mais elle a gagné le cœur de milliers d'Américains. J'écoutais cette semaine plusieurs reportages sur le sujet et une Américaine assez âgée qui disait, ben mon Dieu, puisque Nikki part, je vais voter pour Mickey Mouse à la prochaine élection. On l'a, tu sais, vraiment tellement suscité de l'espoir. Et je trouve qu'elle a été très courageuse pendant cette journée internationale des droits des femmes. Je pense qu'il faut quand même saluer sa contribution parce que ça prend énormément de guts de faire ce qu'elle a fait. D'autant que Trump l'a déjà traitée de cervelle d'oiseau. Hein. Il a été très, très méprisant avec elle. Et il faut se rappeler que Nikki Haley a été la représentante de l'administration Trump à l'ONU. Alors, bravo, Madame Haley. Et j'espère qu'elle va continuer à jouer un rôle dans la prochaine, ben, dans la présente campagne électorale. Je sais pas... honnêtement, elle agaçait Trump, là. Elle agaçait Trump. Mais lorsque Trump l'a traité de cervelle d'oiseau, ça démontre à quel point ce type est prêt à tout pour gagner, hein. Il est même prêt à s'en prendre à ses anciens collaborateurs et collaboratrices. Ça démontre à quel point ça démontre la petitesse de sa personnalité. Alors, bravo à Mme Haley. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, mais...
Oui, mais la seule chose, c'est que les gens oublient quand même qu'elle défend des valeurs assez à droite, pour ne pas dire très à droite. Parce que c'est sûr que par rapport à Trump, tu dis, elle a l'air, elle est plus équilibrée, plus articulée,
plus modérée,
mais sur le fond, là...
Elle demeure une républicaine, je suis d'accord. Mais moi, je te dis ça, pas l'échappe abstraction de ça.
Oui, oui.
Parce que pour moi, c'est la femme, tu sais, qui se... Écoute, tous les républicains partent à courir lorsqu'ils voient Trump. Il y en a qui ont peur de lui, là.
Mais lui, c'est comme on dit, un sociopathe que...
Misogyne, en plus,
totalement.
Les qualificatifs pourraient être nombreux. Quand le bleu vire au rouge, on a vu ça après la fermeture du panier bleu, c'est le gouvernement qui a officiellement abandonné les espaces bleus. Moi, j'y ai vu un symbole derrière ça, le nationalisme économique de la CAQ qui bat de l'aile un peu. Il y a un an, la CAQ annonçait en grande pompe, puis on a réagi à ce moment-là, mais honnêtement, un an plus tard, on se dit, mais c'était con, c'était de la pure folie, cette affaire-là. Ils voulaient construire un musée par région, 17 musées, pour 259 millions de dollars. Ça fait à peu près 15 millions par musée. On peut-tu construire aujourd'hui un musée pour 15 millions? Je sais pas, là, mais enfin. Et là, le gouvernement, rappelle-toi, la poêle, il se faisait aller, il se faisait péter bretelles. C'est un outil pour devenir fier de notre culture, de notre histoire, de notre langue commune. Enfin, bref, ben, ça a fait patate leur histoire. Remarque que moi, j'aime bien ça que, parce que je salue leur lucidité. Ils se sont rendus compte que ça tenait pas la route, là, les espaces bleus. Puis Pierre Fitzgibbon aussi. Tu sais, quand il a annoncé la fermeture du panier bleu, là, je pense que tout le monde s'est rendu à l'évidence, là. Ça aussi, ça a fait de patate. Mais dans le cas du panier bleu, ce qui est triste, c'est qu'on a englouti, quoi, 16 millions. Puis ça va nous en coûter 20 pour fermer la shop, là. Ça, je trouve ça bien, bien triste. Alors, ce que ça témoigne, c'est quand le gouvernement veut prendre des engagements dans la précipitation, puis c'est le cas de ces deux dossiers-là, ben c'est ce que ça donne. Souvent, malheureusement, ça fait patate.
Dans le cas du panier bleu, ce qui est plus troublant, c'est qu'on aurait dû regarder, OK, qu'est-ce qui existe?
Exactement.
Bon, il y a Amazon, là, on comprend, c'est un cas spécial. Mais ailleurs, il y a d'autres plateformes, il y a d'autres gens qui vendent des produits autrement, qui sont déjà équipés. Puis comment tu fais pour les soutenir puis les aider à se développer? Là, tu débarques avec un nouveau site. Tu peux pas faire de transaction. Je veux dire, ça te donne quoi?
Mais c'était chronique d'une mort annoncée.
Pas mal.
Ouais. Puis moi, je me souviens, durant la pandémie, la conférence de presse, tu sais, il y avait une espèce d'affiche avec un panier bleu, là, puis c'était comme l'invention du siècle, cette affaire-là, là. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui avaient manifesté de leur scepticisme à ce moment-là. Mais tous les gouvernements, Paul, font ce genre d'erreur, hein. C'est parce que tu veux laisser ta marque, tu veux, un gouvernement cherche à laisser un leg. Ben là, on s'entend-tu qu'on va passer, à un autre appel. Le petit vite, c'est comme ça, j'ai désigné cette semaine Paul Saint-Pierre Plamondon. Il est pas mal vite sur la gâchette. Il a peu d'expérience parlementaire, c'est ce qui me frappe. Mais il a quand même des bons réflexes. Cette semaine, il a proposé un référendum sectoriel sur l'enjeu de l'immigration. C'est fascinant ce dossier-là parce que moi, je me souviens de l'époque où Michel Courchesne est ministre de l'immigration, puis elle a été un an sans avoir de questions à l'Assemblée nationale sur l'enjeu de l'immigration. Aujourd'hui, là...
Ça change un peu.
Aujourd'hui, c'est une question...
Il n'y a pas une heure que tu n'as pas de question sur
Écoute, exactement. Christine Fréchette en a plein ses bottines. Christine Fréchette, en passant, qui a fait ses classes. Au début, là, il y a un an, un peu plus d'un an, lorsqu'elle est arrivée, elle, vraiment, c'était la ministre qui répétait la cassette. Elle passait son temps à répéter. Tu sais, on avait vraiment l'impression qu'elle lisait ses lignes de presse. Mais là, depuis, elle a fait une montée fulgurante, tant qu'à moi. Elle maîtrise les contenus. Je la trouve très, très bonne. Mais là, maintenant, le vrai test va arriver le 15 mars prochain. Parce que c'est une grosse semaine, la semaine prochaine, pour le gouvernement de la CAQ. Le budget et la rencontre au sommet.
Oui.
Est-ce que la fumée blanche sortira de cette rencontre quasi papale entre Trudeau et Legault? On verra bien. Mais clairement, il faut trouver des solutions parce que l'enjeu lié à l'immigration cause énormément de pression et ce serait tellement facile pour les deux paliers de gouvernement de s'entendre. C'est sûr que quand tu as Mark Miller en face de toi comme ministre d'immigration, elle dit t'es mieux de te lever de bonne heure. Ben, ce qu'il y a le monsieur, soit qu'il y a une mauvaise foi, soit qu'il ne comprend pas les enjeux, tu dis ben là, allô?
Non,
allô?
Mais c'est un dogmatique.
Mais puis en plus, c'est un député de Montréal.
Ben oui.
Lui, il voit, là, s'il vient dans son comté, il doit venir à Montréal de temps en temps, il voit là, à quel point l'immigration exerce une pression.
Lui, il est dans le sud-ouest de Montréal, dans Griffintown, il est dans ce comté-là. Là.
Ben oui, c'est ça. Alors, allô, M. Miller. Alors, bien hâte de voir la rencontre du 15 mars, qu'est-ce que ça va donner, mais ce serait bien qu'on ait une espèce de trêve dans le dossier de l'immigration. Je sais pas si on a encore un petit peu de temps, Paul. Deux nouvelles qui m'ont frappé pendant qu'un directeur d'école sur cinq songerait à quitter son poste, on apprend au même moment qu'il y a 53 personnes qui ont levé la main pour assumer le poste de PDG de Santé Québec. Je trouvais que mettre les deux une à côté de l'autre, je trouvais assez significatif. Tu sais, on veut.
C'est pour la fin avril, ça, non?
Ben oui, parce que oui. Puis oui, c'est en mars.
Fin mars,
là,
avril.
Exactement. Mais là, je disais 53 personnes qui ont levé la main quand même pendant que les directeurs d'école ont dit ciao bye, on veut prendre notre retraite. Et là, je me disais. De ces 53 personnes qui ont levé la main, qui d'entre elles ont la conviction profonde qu'ils vont pouvoir faire bouger le mammouth de la santé?
On verra.
Parce que là, on se demande, est-ce qu'ils vont là pour la paye? Mais s'ils vont juste là pour la paye, je vous le dis tout de suite, là, c'est mais arrêter le processus d'embauche, là, parce que ça, vous allez être très, très malheureux, là. Les défis sont titanesques.
Arrivez pas là tout seul.
Mais il va y avoir des Top Gun adjoints,
oui,
là, c'est ce que je comprends. Là.
Oui, oui.
Ouais. Et je vais terminer sur une note un peu sympathique, une manchette de la presse ce matin. Des Français qui remplacent du coup par fac.
Bon, tu vois.
Non, mais écoute, je me dis, peut-être qu'on pourrait se mettre à dire du coup, nous aussi. Non, mais je sais pas si tu as des amis français.
Ben oui.
Mais les Français disent beaucoup du coup, Paul, du coup. Et là, je me disais, c'est intéressant. Mais les choses changent en France, hein. Écoute, on mange plus de mozzarella que de camembert, on mange moins de baguettes, puis là, on va remplacer du coup par fac. Mais ça fait bizarre en français.
Je connais
fac.
Plus de Français traditionnalistes, disons.
Ceux qui aiment encore porter le béret?
Non, mais pour reprendre l'expression d'un de mes amis, les cochonailles et autres
alors
produits.
Ceux qui aiment les bonnes choses de la vie.
C'est Jean Dujardin, l'acteur français, qui avait dit « Je préfère une entrecôte à la campagne française avec une sauce au poivre et du beurre qu'un espèce de plat de verdure sur une terrasse branchée à Paris. » Je résume, c'est pas tout à fait ça, mais c'est ça que ça voulait
c'est
dire.
C'est ça que ça voulait dire. Alors, du coup, Paul, bonne
merci.
Fin de semaine.
Du coup, bon week-end.
C'est 23.